Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Alors pour ce podcast, je t'invite à écouter celui d'avant pour savoir pourquoi je fais ça. Par la bonne nouvelle, enfin la petite bonne nouvelle que moi j'ai découvert aujourd'hui, c'est que la NASA, pour les astronautes, les cosmonautes, toutes ces personnes-là qui font des choses que je serais incapable de faire, vont tester, la NASA veut tester sur eux le régime cétogène quand ils sont dans l'espace. Donc c'est toujours intéressant quand la NASA commence à s'intéresser à un domaine. Je pense pas qu'ils le fassent par hasard. Donc pour moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que c'est un mode alimentaire que j'ai étudié, que j'ai travaillé, que j'ai expérimenté. Moi, la première fois que j'ai commencé, c'était il y a 8 ans. Et puis là, je vois ça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc on va passer au sujet du podcast tout de suite. Par une question d'un auditeur qui me dit « Salut Théo, que penses-tu des laits végétaux ?» Donc soja, amande, avoine, il y en a plein d'autres, hein. Il y a le riz, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a la noix de coco aussi, tous ces laits-là, faut-il vraiment les éviter ? Alors lui, il me demande s'il faut les éviter. Donc déjà, premièrement, j'aimerais faire une petite partie sur le terme légal de lait. L'Union européenne déclare illégale l'expression lait végétal. On peut lire dans le texte de loi de l'Union européenne, pour la référence pour ceux que ça intéresse, c'est le 13/08/2013, annexe 7, partie 3. J'ai tout mis en description de toute façon. La dénomination lait est réservée exclusivement aux produits de la sécrétion mammaire normale, obtenus par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction. Voilà. Après, il y a des tas de contradictions par rapport à ça. Il y a des gens qui disent oui, mais en fait, quand on regarde bien la définition sites ou sur d'autres. Les sites internet, c'est pas le côté légal forcément. Mais il y en a qui disent que c'est pas forcément que le lait de vache, enfin que le lait qui vient de la glande mammaire, quoi, on va dire, qui pourrait avoir l'appellation lait. En fonction des pays, ça peut changer aussi. Donc, c'était tout ça pour dire que il y a un texte légal qui a été mis là-dessus. Donc peut-être que il y a certains pays où c'est interdit, on n'a plus le droit de dire lait végétal, on est obligé de dire jus ou boisson. Boissons à l'avoine, au soja, etc. Donc ça, c'était la première partie. Il faut savoir aussi que ceux qui ont demandé ça, c'est ceux qui travaillent pour l'industrie laitière. Alors, c'est pas sûr, hein, j'ai un doute là-dessus, mais de mémoire, j'avais vu ça. Et ce qui peut se comprendre, dans un sens où, là, je prends pas parti, je fais pas l'avocat du diable ou quoi, hein, mais ce qui peut se comprendre, parce que ça peut induire les gens en erreur. Là, j'enlève tout le côté santé. Hein. Moi, c'est pas le but du podcast là. Pour les nourrissons, y en a qui se disent, je vais leur donner du lait de soja parce que c'est du lait. La composition n'est pas la même quand même. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. Et je pense que c'est peut-être aussi pour le business, on est d'accord, mais aussi par prévoyance pour les personnes qui vont pas faire forcément des recherches par rapport à ça. Ok, donc on a fini de parler de ça. Je vous invite à faire d'autres recherches là-dessus pour savoir exactement ce qu'il en est. Mais le but là du podcast, c'est de savoir un petit peu comment moi je l'utilise. Est-ce que ça sert à quelque chose de l'utiliser et comment je l'utilise. Donc déjà pour commencer, le premier truc à savoir, c'est que moi il y a des laits, des laits végétaux que j'évite. Alors, ceux que j'évite par précaution, c'est le soja, le riz, l'avoine. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, dans le riz et l'avoine, on va avoir des substances, des antinutriments. Il faut savoir une chose, c'est que c'est pas toujours cuit, c'est-à-dire que c'est pas toujours le riz qu'on va utiliser, l'avoine qu'on va utiliser, c'est pas toujours nettoyé et cuit, ou même on n'a peut-être pas forcément enlevé toute l'écorce, toute l'enveloppe du grain. Et donc du coup, on sait que déjà il peut y avoir plein de pesticides dessus, étant donné que c'est l'enveloppe de la céréale, si on peut appeler ça comme ça, on peut se retrouver avec pas mal de pesticides dessus, voire d'antinutriments. Donc les antinutriments, c'est des choses qui sont mal reconnues par le système digestif, qui peuvent potentiellement déclencher des réactions immunitaires, on va dire. Donc, ceux-là, je les évite. Le soja aussi, j'évite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une polémique là-dessus avec les phytoestrogènes, en fait, les substances qui pourraient être contenues dans le soja qui seraient pro-œstrogénisantes. Alors, je ne sais pas, pro-œstrogéniques. Ce n'est pas forcément quelque chose d'intéressant pour les hommes. Pour les femmes, je ne pense pas non plus. Enfin, peut-être plus tard, quand elles ont passé la période de la ménopause, etc. Mais pour l'instant, non. Encore tout ça, il faudrait le vérifier. Après, je ne sais pas qui a lancé ces études, qui a lancé ces rumeurs, etc. Moi, je préfère les éviter par précaution. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'évite par précaution soja, riz, avoine sous forme de lait, tout simplement. Après, ce que je prends, ça va plutôt être lait de coco et lait d'amande. Déjà d'une, pour le goût et puis aussi pour le côté des bienfaits nutritionnels. Je trouve que c'est une source intéressante d'acides gras. Ça permet de donner un petit peu de goût quand on a des préparations liquides, que ce soit des smoothies, que ce soit par exemple pour mélanger avec les flocons d'avoine ou les flocons de sarrasin ou quoi. C'est toujours plus sympa de mélanger avec un lait de coco ou un lait d'amande plutôt que simplement de l'eau. Pour la cuisine aussi, moi je trouve qu'avec du lait de coco, c'est quand même relativement sympa de mélanger un petit peu de curry avec du poulet, même un petit peu de riz. Ça donne tout de suite un goût un petit peu plus sympa. Après, c'est toujours pareil. Moi, j'aime pas exclure tout de la diète sous prétexte qu'on fait du fitness, c'est-à-dire que voilà, on fait du fitness, donc on va manger des choses fades, etc. C'est vraiment pas mon but. Encore une fois, de toute façon, si vous me suivez, vous savez que je suis quelqu'un de relativement gourmand, donc j'aime beaucoup me faire plaisir en mangeant, et c'est pas parce que je mange des choses clean qu'il faut pas que je me fasse plaisir. Au contraire, moi le défi ça a été de me faire plaisir avec des aliments clean, et ce genre d'ingrédients sont plutôt sympas. Moi j'aime bien le mettre aussi avec de la protéine en poudre. Bon, après les protéines en poudre c'est un autre débat, mais moi j'utilise de la protéine isolate sans lactose. Donc ça me permet de mettre ça avec, ça donne un petit peu de goût, un petit peu d'épaisseur, parce que l'isolate c'est vraiment quelque chose de très très fin, très liquide, et le fait de le mélanger avec du lait d'amande ou du lait de coco, ça peut tout de suite donner une texture un petit peu plus crémeuse. Ça peut augmenter aussi un petit peu le total calorique en ajoutant un petit peu de lipides aussi. La teneur en glucides n'est pas énorme, donc ça pose pas trop de problèmes pour ça. Faut pas oublier une chose, c'est que plus on mange clean, moins on va manger de calories. Et pour certaines personnes, les personnes ont besoin de consommer. On a quand même besoin d'un total calorique relativement cohérent par rapport à ce qu'on fait dans la journée. Et si on s'entraîne beaucoup ou si on s'entraîne très intense, on a quand même besoin d'un apport calorique. Chasser la calorie absolument, c'est pas forcément une bonne solution, surtout quand on mange clean. Il nous faut des calories quand même, et ça, il faut en être conscient. Donc voilà. Moi je pense que c'est quelque chose qui peut être facilement utilisé, enfin on peut facilement en avoir dans son frigo en permanence. Ça peut aider même en boisson fraîche, hein, le matin au lieu de se boire un verre d'eau, on peut prendre ça avec un petit peu de cannelle. Voilà, c'est pas quelque chose qui va vous casser le physique, vous casser la ligne, au contraire ça peut vous apporter quelques nutriments, quelques micronutriments aussi, et puis donner un petit peu de gaieté à vos petits déjeuners ou à vos collations. Après, il y a quelque chose de très simple, moi je l'ai déjà testé plusieurs fois, c'est de faire son propre lait d'amande. C'est assez simple, ça prend du temps dans l'absolu, mais c'est simple à faire. Ça prend du temps parce que il y a un temps de trempage. En fait, vous prenez des amandes, moi ce que je fais, c'est que je prends des amandes, je les recouvre complètement d'eau, et je les laisse pendant 24 heures tremper dans cette eau-là pour activer la germination. Donc ça active la germination, ce qui va les rendre un petit peu plus digestes et un petit peu plus tendres aussi pour la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de retirer cette eau, de mettre de l'eau propre, quoi, de l'eau saine, et de mixer tout ça pendant un certain temps, mais en faisant des pauses. C'est-à-dire on mixe 5 secondes, on laisse reposer 5 secondes, etc. Tout simplement pour ne pas chauffer. Donc là, je suis vraiment un puriste. Hein. Mais bon. On mixe comme ça plusieurs fois jusqu'à obtenir une texture blanche. Finalement, on va se retrouver avec du lait, une espèce de bouillie laiteuse. Et après, en fait, moi, j'avais piqué un collant à ma femme usé, que j'avais lavé avant, bien sûr. Et j'avais mis toute cette bouillie dans le collant, et puis je m'en étais servi pour récupérer juste le lait. En fait, il n'y a que le lait qui tombe, du coup, toute l'écorce, toute la bouillie reste dans le collant et on s'en sert de filtre. Mais après, on peut utiliser une passoire très fine, un tamis, je crois que ça s'appelle comme ça, pour extraire le lait. Donc avec ça, l'avantage qu'il y a, c'est que plus on met d'eau, plus ça sera fluide, moins on met d'eau, plus ça sera épais. On peut gérer la concentration. On peut mettre après un petit peu quelques gouttes de citron pour que ça se conserve mieux. On peut mettre un peu de gingembre aussi. On peut mettre un peu de cannelle. Moi, j'adore la cannelle, surtout pour un lait d'amande comme ça. Ça va un petit peu donner un goût sucré un petit peu plus prononcé. Mais l'avantage, c'est qu'on peut vraiment se faire quelque chose d'extra concentré et ça reviendra beaucoup moins cher que les briques de lait d'amande qu'on peut acheter, parce que c'est hyper, hyper... Enfin, faut dire ce qui est le lait d'amande bio, non sucré. Donc en fait, celui où il y a le plus d'amandes possible, c'est extrêmement cher et c'est pas très épais. Donc on se dit que c'est hyper dilué. Donc ça doit être certainement un très gros bénéfice pour le revendeur. Mais nous, finalement, les bénéfices du lait d'amande, on le retrouve pas forcément. Alors que si tu commences à faire comme moi ton propre lait d'amande, tu vas pouvoir te faire un truc beaucoup plus concentré et avoir enfin une petite bombe nutritionnelle dans ton verre le matin ou dans ton bol le matin. Donc voilà à peu près ce que je pense. Donc faut-il vraiment les éviter? C'était la question de l'auditeur. Moi je dis que non. Il y en a à éviter par précaution. Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne, parce que c'est toujours pareil. De toute façon, entre lait de riz, lait d'avoine, lait de soja, lait de coco et lait d'amande, non seulement ceux que j'évite sont ceux que j'aime le moins au goût aussi. Donc ça c'est plutôt positif pour moi. Après chacun est libre de faire comme il veut. Hein. Moi je suis pas médecin, je suis pas médecin nutritionniste quoi. Donc je suis pas un professionnel dans ce domaine. Je pourrais pas m'avancer et te donner des recommandations comme ça sans prendre la peine de d'apprendre à te connaître, à faire une consultation avec toi. Enfin bon bref. Moi je te dis juste ce que je fais, ce que j'ai trouvé intéressant avec mes propres recherches. Et ensuite j'avais envie de te parler d'autre chose aussi, c'est le thème de la formation que je fais à la fin de cette semaine. Donc selon l'heure à laquelle ou le jour auquel tu écouteras ce podcast sera déjà en ligne. C'est « Je ne congestionne pas ou plus depuis quelques temps après une séance d'entraînement ou pendant une séance d'entraînement ». Donc ça c'est un problème récurrent chez pas mal de pratiquants. Donc des débutants ou des pratiquants intermédiaires ou même avancés qui n'arrivent plus à congestionner. Donc tu vois, la congestion, moi quand tu congestionnes bien, tu as quand même un sentiment d'une bonne séance pendant ta séance. Tu te sens bien, tu as l'impression de faire une bonne séance. Tu as plus de plaisir à t'entraîner et on sait aussi que la congestion est un des facteurs de la prise de muscle. Tu vois, il y a plein de facteurs pour la prise de muscle, je le détaille dans un autre podcast, ça d'ailleurs, il y en a plusieurs. Et la congestion en fait partie, donc tu vois, quand tu congestionnes pas, tu te dis qu'il te manque quand même un maillon de la chaîne, quoi. Et donc c'est plutôt frustrant, c'est plutôt, enfin, tu prends pas ton pied, quoi, parce que quand tu t'entraînes, t'aimes bien congestionner. T'as les mensurations qui grossissent un peu pendant l'entraînement. Alors là, c'est très personnel, c'est très lié à l'ego, hein, je sais, mais moi, j'aime bien congestionner à la salle d'entraînement et j'avoue qu'il y a eu un moment où je congestionnais plus trop. En fait, j'ai fait un petit feedback par rapport à ce que je faisais et j'ai trouvé tout de suite les erreurs. Hein. J'ai mis en place des techniques pour améliorer la congestion. Mais tu vois, par exemple, la congestion, tu te rends compte d'une chose, c'est que par exemple, du curl biceps, quand tu mets trop lourd, tu congestionnes plus du tout. Tu vas être plus léger, tu vas faire plus de reps, voire même le même nombre de reps, mais avec plus léger, et tu vas te rendre compte que tu congestionnes. Donc là, tu peux en tirer quelques conclusions, comme par exemple, est-ce que c'est réellement mes biceps qui font le boulot quand je mets trop lourd? Si c'était réellement les biceps, ils congestionneraient, tu vois, le sang arriverait bien dedans, il y aurait bien ce phénomène de pompe, de déformation, etc., et de pompe derrière, et du coup, tu aurais une belle congestion. Mais là, c'est pas le cas, donc, enfin, tu vois, tu as des conclusions des fois à tirer. Est-ce que tu cherches pas artificiellement à progresser en mettant de plus en plus lourd et finalement, tu es de moins en moins sur ton muscle? Donc ça, c'est un point à retenir parce que moi, perso, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, j'ai ressenti ça pour les biceps. J'ai ressenti ça pour les épaules. J'ai ressenti ça aussi pour les triceps. Enfin, plutôt les petits groupes musculaires, les gros groupes musculaires moins. Mais pour les petits groupes musculaires, ça a été plutôt ça. Après c'est quelque chose, je vais vraiment le développer dans la formation de la semaine parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Moi j'ai plein de petites techniques à te donner, c'est des techniques, tu vois, je me suis jamais forcé à faire ces techniques, mais À chaque fois que je congestionnais, j'ai noté plus ou moins ce que je faisais et j'ai ma petite liste quoi. Et quand je congestionne pas, je regarde et puis je me dis finalement c'est normal, j'ai eu aucun des points de la liste, donc c'est normal que je congestionne pas. Donc ça, on en parle dans la formation. De toute façon, je t'ai mis le lien en description. Tu pourras voir tout, enfin du podcast là, la description du podcast. Tu regardes, il y a un lien. Tu pourras accéder à cette formation sans souci. Je t'ai aussi mis dans la description un lien pour la liste des compléments alimentaires que je prends en ce moment, parce que c'est quelque chose, on me pose tellement souvent la question qu'au lieu de répondre au cas par cas à chaque personne, je me suis dit je vais les regrouper et puis je mettrai à jour au fur et à mesure. Donc tu as un lien, tu peux y accéder, et puis les autres je te les enverrai par email. À chaque fois que je fais une mise à jour, je t'enverrai un mail avec les nouveaux compléments alimentaires que je prends, mais surtout pourquoi je les prends, parce que les prendre c'est un, tu vois, tu peux dire je prends X, Y, machin, mais finalement si tu n'expliques pas pourquoi, c'est rien, parce que des compléments alimentaires, ça se prend pas dans l'absolu. Si tu veux, il n'y a pas des compléments alimentaires par défaut. Il y a des compléments alimentaires qu'il te faut ou qu'il te faut pas. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que toi, tu as besoin à l'instant T, tu vas avoir besoin de certains compléments alimentaires. Ou pas d'ailleurs, tu as peut-être besoin de rien, mais par exemple, une personne qui dort mal aura besoin de certains types de compléments alimentaires. Une personne qui dort très bien n'en aura pas besoin. Une personne qui n'est pas au régime n'aura pas besoin des mêmes compléments alimentaires que la personne qui est au régime. Qui au régime n'aura pas besoin des mêmes compléments alimentaires que celle qui n'est pas au régime. Voilà, je vais y arriver. En fait, tu sais pourquoi j'ai un peu de mal aujourd'hui? Tout simplement parce que hier, j'ai fait les cuisses, et je sais pas si ça te le fait, mais chaque lendemain de cuisses, et ça, j'en parlais longuement dans une vidéo sur le site, pour répondre d'ailleurs à Loïc, un des membres du site, par rapport à ça, le lendemain des cuisses, quand tu as vraiment fait une grosse séance, eh ben, tu es explosé. Mais tu es explosé au niveau physique, donc tu sens que tu as des bonnes courbatures, tes jambes sont un peu lourdes et tout, mais même au niveau, tu vois, de tout ton organisme, tu sens que tu es en mode restreint, tu sais, comme une bagnole. Une bagnole, quand tu as le voyant moteur qui s'allume, je sais pas si ça te l'a déjà fait, tu vois, sur ta bagnole, tu as le voyant moteur qui s'allume et tu es bridé à 50 km/h, quoi. Pour tous ceux qui ont eu dans les années. Alors, en quelle année c'était? 2006, moi j'avais une Laguna, tu sais, le fameux moteur Renault 1,9 litre DCI qui avait plein de problèmes avec la vanne EGR et tout ça. Eh bien, il y avait souvent ce problème-là, ça se mettait, le voyant s'allumait et boum, tu te retrouvais à être bridé à 50 km/h, tu vois. Et bien là, c'est un peu pareil. Quand le lendemain des cuisses, tu sens que tu es en mode restreint, quoi. Comme si tu pouvais, t'es qu'à 50% de tes capacités, aussi bien mentales que physiques. Et bon, tu le lendemain, ça passe, mais tu te dis que tu as dû sacrément foutre t'as dû mettre un strike, en fait, dans ton organisme. Et là, en attendant que les quilles se remettent en place, il faut attendre quelques heures, quelques jours, peut-être même, derrière. Ok, donc voilà. Après, j'avais envie de te parler un peu de vie perso. Par rapport à YouTube, enfin vie perso, c'est pas de la vie perso, c'est plutôt mon style de vie par rapport à YouTube. Moi sur YouTube, j'ai remarqué que je me décalais de plus en plus par rapport à ce qui se disait. À ce qui se disait, pas par rapport à moi, hein, je m'en fous, mais par rapport aux vidéos YouTube muscu et tout qu'il y a sur YouTube, je me sens plus réellement en accord avec les attentes des gens. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui aiment beaucoup, enfin les gens qui me suivent en général, mes abonnés, donc tu peux aller voir, je t'ai mis un lien vers ma chaîne YouTube, ou enfin directement tu tapes Fitness Miss sur YouTube, tu me trouveras. Donc j'ai quelques abonnés quand même, hein, je crois que je suis à 65 000 ou 64 000 abonnés, et les gens me suivent pour mon discours, et souvent ça revenait, ils me disaient je comprends pas pourquoi t'as pas plus d'abonnés, etc. par rapport à ton message, t'apprends toujours quelque chose contrairement aux autres et tout. Alors je vais pas rentrer dans ce débat, j'apporte mieux que les autres, je pense pas d'ailleurs, il y a des gens qui apportent des choses très très bien. Ça après c'est en fonction des attentes de chacun, mais je me rendais compte que les attentes, en fait sur YouTube, si tu veux faire du contenu qui semble intéressant pour les gens, il faut que tu fasses des vlogs, tu vois, où tu racontes ta vie, où tu te montres tout le temps torse nu en t'entraînant et tout. Et moi, c'est pas forcément pour ça que je m'étais mis sur YouTube à la base. Alors j'ai fait bien sûr des vidéos d'entraînement, j'ai fait des vidéos où je montrais mon physique, ça y a pas de souci, ce qui permet quand même de voir mon évolution, etc. Mais bon, je vais pas passer mon temps à faire ça, je veux dire, il y a suffisamment de vidéos où j'en parle, où je montre tout ça. Ça servira à rien au-delà de vouloir continuer à faire du buzz, et ça, j'y arrive pas. Parce que ça voudrait dire que si je suis plus sur YouTube, ça sert plus à rien, quoi. Enfin, si je suis plus sur YouTube, ça veut dire que. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Excuse-moi, je viens de recevoir un message, ça m'a perturbé. Tu vois, comme quoi le cerveau, c'est pas être multitâche. me forcer à faire des vidéos et des vidéos et des vidéos pour maintenir une audience constante en répétant les mêmes choses, ça ne m'intéresse pas. En fait, ça ne me passionne pas. Quand j'ai déjà dit quelque chose, j'ai envie de passer à autre chose. Et forcément, au début, tu as des sujets qui sont plutôt bateaux, qui sont plutôt des sujets, des grandes lignes. Et puis, au fur et à mesure des vidéos, bah, t'es obligé de, si tu veux jamais faire la même chose, tu es obligé de rentrer dans des petits détails. Et plus tu rentres dans les détails, moins tu te rends compte que tes vidéos, elles sont regardées. Moi, par rapport au podcast, tu vois, je compare les vidéos YouTube au podcast. Les podcasts, j'ai beaucoup plus de retours positifs. Je crois que quasiment tous les gens qui ont aimé les podcasts, ils ont mis un avis, ils ont mis sur iTunes. D'ailleurs, je t'invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup, par contre, de mettre un avis sur iTunes ou en commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup. Mais donc, les gens me laissent des avis beaucoup plus facilement que sur YouTube. Mais c'est surtout qu'ils m'envoient des messages et qu'ils me disent, franchement, les podcasts, j'attends ça chaque semaine et tout. C'est comme un petit rendez-vous ensemble. Enfin, moi, je trouve ça bien. Et puis, par rapport aux vidéos, tu vois, la vidéo YouTube, En fait, tu vois une vidéo YouTube de 10 minutes. Tu vas te connecter sur ton YouTube, tu regardes, ah tiens, t'as ton YouTubeur préféré qui a fait une vidéo de 10 minutes. Tu vas devoir t'accorder dans la journée 10 minutes pour la regarder. Alors que moi, un podcast que je vais faire, même s'il dure 20 minutes, tu t'en fous. Tu l'écoutes un petit peu en bagnole, un petit peu pendant ton cardio, un petit peu pendant ton échauffement, un petit peu pendant que tu fais la cuisine, je sais pas. Tu vois, t'as plein de moments pour l'écouter. Tu peux même l'écouter avec tes écouteurs en bouffant au self ou quoi, si t'es tout seul. Tu sais, je sais pas, s'il y a pas tes collègues de boulot, tu manges tout seul ou dans ton bureau, tu vois, si tu te fais ta pause. Tu peux faire deux choses à la fois. Et ça, je trouve ça beaucoup mieux. En fait, tu es plus libre avec les podcasts. Et du coup, vu que tu es plus libre, eh ben, tu l'écoutes en entier. Et moi, mon message y passe et la personne apprenne vraiment des choses. Donc, je ne dis pas que j'ai pu faire de vidéos YouTube. Je vais en faire encore parce que j'aime beaucoup faire des vidéos. Et de toute façon, moi, les vidéos, j'en fais chaque semaine puisque je te fais des formations chaque semaine. Et bon, c'est plus sur 40 minutes, voire une heure parfois. Les vidéos longues, quoi. C'est des gens qui... Enfin bon, si toi, t'aimes les vidéos longues où ça parle de muscu et de nutrition, va voir la zone membre. C'est ce qu'il te faut, quoi. Mais après, sur YouTube, j'aime aussi des fois partager des petits trucs quand je trouve ça sympa. Là, j'en ai pas fait depuis peut-être 3 semaines. Écoute, ça me manque pas forcément. J'ai pas de choses à dire, donc j'ai... En vidéo, tu vois, j'ai pas forcément envie de parler en vidéo, j'aime beaucoup parler en podcast en ce moment, donc pour l'instant c'est les podcasts, je dis pas que je reviendrai pas aux vidéos, de toute façon c'est sûr que je vais y revenir, mais pour l'instant c'est les podcasts. Donc voilà, c'est tout pour moi, pour celui-là, pour cette semaine. Tous les petits liens, tous les trucs dont j'ai parlé dans la vidéo, tu vois, j'ai les réflexes encore de dire vidéo dans le podcast, tu retrouves les liens sous ce podcast dans la description. Et puis, j'insiste encore une fois, laisse-moi un avis là, par rapport à tout ça, positif ou négatif, hein, le but c'est d'avancer, ou envoie-moi un petit commentaire si tu n'écoutes pas sur l'application podcast d'Android ou d'iTunes, tu me laisses un petit commentaire sous l'article où il y a le podcast sur mon site, voilà. Donc je te dis à bientôt, j'espère que ça pourra t'aider pour choisir ton lait végétal. Et puis en attendant, passe une super journée, entraîne-toi bien, récupère bien et mange bien. Bye.